Dr. Dave Mathewson, Apocalypse, leçon 7. Apocalypse 3. Symbole copyright 2024 Dave Mathewson et Ted Hildebrandt. Il s'agit du cours du Dr. Dave Mathewson sur le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de la session 7, les 7 églises de l'Apocalypse, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Les promesses de la lettre de Sardes. Nous avons dit que Sardes avait la réputation d'être vivante, mais en réalité, elles étaient mortes. Une autre chose à dire sur leur réputation d'être vivant. Premièrement, il ne s'agissait peut-être pas seulement de leur évaluation, mais peut-être de celle des autres églises de la région. Ils avaient parmi eux la réputation d'être vivants. Il est également possible qu'il y ait un peu d'hyperbole dans la déclaration de Jésus, voire d'ironie, en disant que vous avez le nom ou la réputation d'être vivant, mais que vous êtes en réalité mort. Mais, dans tous les cas, Jésus les appelle à se repentir, et à ceux qui vainquent, nous trouvons au moins deux promesses qui leur sont faites. Encore une fois, ces promesses sont clairement tirées du reste du livre, en particulier vers la fin des chapitres 19 à 22, qui, à mon avis, démontrent ou font tout référence à ce qui se passe lorsque Jésus vient mener l'histoire à sa conclusion lors de sa seconde venue. La première est que s'ils surmontent cela, ils recevront des vêtements blancs et seront habillés de blanc. Encore une fois, ce langage reprend probablement ce que nous trouvons dans le texte, comme au chapitre 7. Dans le chapitre 7, nous trouvons une sorte de cycle préliminaire, avons-nous dit, de révélation. Il anticipe la récompense future du peuple de Dieu avant l'exposé complet des chapitres entre 21 et 22. Déjà au chapitre 7, nous voyons une vision du peuple de Dieu debout victorieux devant le trône, et nous trouvons, en particulier au verset 9, qu'il est dit, « Après cela, je regardai, et il y avait devant moi une grande multitude que personne ne pouvait compter ni compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau. » Voici donc le peuple de Dieu victorieux à la fin de l'histoire et dans la présence de Dieu. Il portait des robes blanches et tenait des branches de palmier à la main. Nous trouvons un langage similaire au chapitre 19. Et au chapitre 19, c'est là, après la destruction de Babylone au chapitre 18, que nous décrirons au début du chapitre 19, dont nous parlerons plus tard. Au chapitre 19, au verset 8, encore une fois, une référence au saint glorifié, au peuple de Dieu qui se tient désormais victorieux devant Dieu. Le verset 8 dit, « Je vais revenir en arrière et lire 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et la mariée s'est préparée, du lin fin, éclatant et pur, a été donnée. Elle a porté. » La mariée est une image ou un symbole de l'Église, du peuple glorifié de Dieu, et maintenant on leur donne du lin ou du lin d'un blanc éclatant à porter. Ainsi, cette promesse est maintenant reprise dans la promesse faite à l'église de Sardes selon laquelle ils porteront également des vêtements blancs s'ils vainquent, c'est-à-dire s'ils refusent de faire des compromis. Les vêtements sont probablement simplement un symbole de leur salut final et de leur perfection et, plus précisément, un symbole de victoire et même de justification. Que maintenant, justification parce qu'ils ont souffert aux mains de l'Empire romain, qu'ils ont maintenu un témoignage fidèle dans un environnement hostile, même jusqu'à la mort, ils recevront des robes blanches comme symbole de leur victoire et de leur pureté que maintenant ils possèdent dans leur salut final, mais aussi la justification. C'est donc la première promesse qui leur est faite dans les sections ultérieures de l'Apocalypse. Ils recevront une robe blanche de pureté, de justification et de victoire. Deuxièmement, leur nom sera également inscrit dans le livre de vie, mais l'assurance est que ces noms ne seront pas effacés. Lorsque vous lirez le reste du livre de l'Apocalypse, vous découvrirez un certain nombre de livres ou de parchemins, à partir du chapitre 5. Et ici, nous sommes présentés à un livre appelé le livre de vie, qui, encore une fois, n'est probablement pas un livre littéral. Mais un livre qui symbolise la sécurité et l'appartenance du peuple de Dieu à Dieu lui-même. Le livre symbolise leur salut. Le livre symbolise la certitude de leur salut qu'ils possèdent désormais. Il est intéressant de noter que l'auteur leur dit que leurs noms ne seront pas effacés. Maintenant, cela soulève la question, est-il possible que leurs noms soient effacés de ce livre? Autrement dit, ils pourraient être là, mais ils pourraient être retirés. C'est tout à fait possible, mais l'accent mis sur ce texte ne signifie pas qu'ils soient en jeu, vont-ils voir leurs noms retirés ou non? Ce langage de vos noms ne sera pas effacé est une figure de style appelée litote, qui est une façon de dire quelque chose en soulignant son contraire ou son négatif. Alors, quelqu'un pourrait dire, comment vas-tu? Et vous pourriez répondre, pas mal. Cela signifie que vous faites du bien, mais vous dites le contraire. Ne pas effacer son nom, c'est donc affirmer le contraire. Dieu vous gardera. Vous pouvez être certain que vous atteindrez le but de votre salut échatologique si vous triomphez et persévérez. Donc, pour l'Église de Sardes, et d'ailleurs, le livre de vie que nous verrons apparaît plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Encore une fois, Jean s'appuie sur des images du salut échatologique final dans le reste du livre pour fournir à ces églises une motivation pour vaincre dans le présent. Ainsi, pour l'Église de Sardes, il lisait le livre de l'Apocalypse, comme encore une fois, comme d'autres églises, comme un avertissement de ne pas participer ou de ne pas faire partie de l'Empire romain païen dans ses pratiques idolâtres et de ne pas participer à l'Empire romain païen dans ses pratiques idolâtres. Faites des compromis et acceptez cela, de peur qu'ils ne se retrouvent les objets des visions de jugement et des visions de plaies et de jugement que Dieu déverse sur Rome et sur un monde méchant et impie s'ils refusent de se repentir. Au lieu de cela, encore une fois, pour ceux qui maintiennent leur pureté, pour ceux qui maintiennent leur témoignage fidèle, ils ont alors la promesse qu'ils participeront au salut échatologique que Dieu promet à son peuple, c'est-à-dire des robes blanches et la victoire et la victoire. Être justifiés et aussi la certitude qu'ils hériteront de leur salut échatologique dans le futur. L'église suivante que nous rencontrons dans le livre de l'Apocalypse est l'église de Philadelphie au chapitre 3, versets 7 à 13. La ville de Philadelphie était une ville ancienne située, encore une fois, sur cette route circulaire. Cela aurait été un peu au sud-est de Sardes, la ville précédente que nous avons examinée. Ainsi, avec Sardes, elle a également été dévastée par ce tremblement de terre en 17 après J.C. Elle était également importante en raison de l'influence du culte de l'empereur dans la ville ainsi que d'autres dieux et religions païens. Et ce qui est significatif à propos de Philadelphie, c'est que c'est la seule autre église, avec Smyrne, qui reçoit une évaluation positive et n'inclut aucune réprimande ou condamnation. Comme Smyrne, c'est une église qui souffre parce qu'elle a maintenu son témoignage fidèle. Ainsi, lorsque Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie, voici ce qu'il dit. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, ce sont les paroles de celui qui est saint et véritable, qui détient la clé de David, ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Je connais vos actes. Vois, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, mais tu as tenu ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je ferai venir ceux qui sont de la synagogue de Satan, ceux qui prétendent être juifs, bien qu'ils ne le soient pas, mais qui sont des menteurs. Je les ferai venir se jeter à vos pieds et reconnaître que je vous ai aimés. Puisque vous avez gardé mes commandements d'endurer patiemment, je vous garderai aussi de l'heure d'épreuve qui va survenir sur le monde entier pour éprouver ceux qui vivent sur la terre. Je viens bientôt. Conservez ce que vous avez pour que personne ne prenne votre couronne. Celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de Dieu. Plus jamais il ne le quittera. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai aussi sur lui mon nouveau nom. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, nous avons dit Philadelphie, en lisant ces mots, Philadelphie ne reçoit pas de condamnation ni d'évaluation négative, mais l'évaluation est positive. Le problème est que l'Église est décrite comme ayant peu de pouvoir. Cela signifie probablement qu'ils ont peu d'influence socio-économique dans la ville de Philadelphie. C'est une Église de peu d'importance. Peut-être sont-ils alors incapables de se protéger des persécutions qu'ils subissent, mais ils sont restés fidèles dans leur vie et dans leur témoignage. Par conséquent, remarquez le titre qui est donné à Christ au chapitre 1. Au chapitre 3, le message à l'église de Philadelphie, Jésus est décrit comme celui qui est saint et vrai et il détient les clés de David. Autrement dit, celui qui les considère désormais comme saint et fidèle et détient également les clés de David. Il est intéressant de noter qu'il s'agit là d'une autre allusion à l'Ancien Testament. Je pense que la clé pour comprendre cela est la clé pour comprendre la porte ouverte. Plus tard, Jésus dit à l'église de Philadelphie, j'ai placé devant vous une porte ouverte. La clé pour comprendre cela est de comprendre le contexte de l'Ancien Testament, qui sort encore une fois directement du livre d'Isaïe et du chapitre 22. Dans Isaïe chapitre 22, nous lisons ces paroles adressées à Éliakim, le roi d'Israël, celui qui est le roi sur le trône dans la lignée de David. Au chapitre 22, je vais commencer par le verset 20, mais je vais lire jusqu'au verset 24 d'Isaïe 22. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkia, je le revêtirai de ton robe et attache autour de lui ta ceinture. il est intéressant de noter qu'il s'agit d'un parallèle avec la façon dont Jésus est décrit au chapitre 1. Et remettez-lui votre autorité. Il sera le père de ceux qui habitent à Jérusalem et dans la maison de Juda. Et je veux que vous remarquiez ce langage du père. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'était le verset 22. Puis, 23 ans, je l'enfoncerai comme une cheville dans un endroit ferme. Il sera une semence d'honneur pour la maison de son père. Toute la gloire de sa famille reposera sur lui. C'est une progéniture et des rejetons. Remarquez encore une fois ce langage de progéniture ou de semence. C'est également un thème important dans l'Ancien Testament et dans l'Alliance Davidique. Tous ces petits récipients, depuis les bols jusqu'à tous les vases. Le contexte est donc que Eliakim, en tant que roi assis sur le trône de David, reçoit maintenant l'autorité de David. Et on lui donne maintenant les clés de l'entrée du royaume ou de l'entrée du palais. Il est représenté, et Eliakim est presque représenté comme un administrateur. Et qui peut permettre l'entrée ou l'exclusion dans le palais lui-même. Et dans le royaume davidique. Et la question est, comment, alors, cela s'applique-t-il à Christ? Comment un texte aussi spécifique que le chapitre 22 d'Ésaïe faisant référence à Eliakim s'applique-t-il désormais à la personne de Jésus-Christ? Tout d'abord, nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le lien avec David. Souvent, ce qui était vrai pour ceux qui étaient assis sur le trône davidique. Cela est vrai pour un certain nombre de psaumes dits royaux qui sont appliqués à Jésus plus tard dans le Nouveau Testament. Ce qui était souvent vrai pour ceux qui étaient assis sur le trône de David était également vrai pour le plus grand fils de David, Jésus-Christ. Ainsi, Jésus serait alors considéré comme celui qui détient les clés et l'autorité. Les clés sont le symbole de l'autorité d'entrée ou d'exclusion du royaume. Du royaume davidique que Jésus a maintenant inauguré. Ainsi, Jésus, en tant que véritable fils de David, a désormais le pouvoir d'entrer dans le royaume de Dieu ou d'en être exclu. Et du royaume davidique qu'il a maintenant inauguré. De plus, il est possible que le chapitre 22 d'Ésaïe doive également être lu à la lumière des chapitres 9 et 6, 7 d'Ésaïe. Vous vous souvenez du texte bien connu que l'on lit souvent au moment de Noël. Chapitre 9 et commençant par le verset 6. Car un enfant nous est né, pour nous, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. Le langage qui apparaît dans Ésaïe chapitre 22. Et il sera appelé conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel. C'est un terme appliqué à Eliakim au chapitre 22. Prince de la paix. Il n'y aura pas de fin à l'augmentation de son gouvernement et à la paix. Il régnera sur le trône de David et sur son royaume. Établissez-le et maintenez-le avec justice et justice à partir de maintenant et à partir de ce moment-là et pour toujours. Maintenant, le chapitre 22 d'Ésaïe aurait probablement été lu par Jean à la lumière du chapitre 9. Il s'agit de la venue d'un fils pour s'asseoir sur le trône de David. Pour établir sa domination pour toujours et régner dans la justice. Le gouvernement serait sur ses épaules. Alors maintenant, Jésus-Christ est ce fils d'Ésaïe chapitre 9. Il assume ensuite également l'autorité du chapitre 22 en tant que roi davidique. Qui a le droit, les clés, l'autorité d'inclure, de donner accès ou d'exclure l'entrée de son royaume. La deuxième raison se trouve probablement dans le chapitre 22 d'Ésaïe. Jean aurait lu Eliakim de manière typologique. Typologiquement, anticiper un fils plus grand. Quelqu'un qui fournirait en fait l'expression culminante de quelqu'un qui viendrait. Et prenez les clés qui signifieraient l'autorité d'inclusion et d'exclusion dans le royaume davidique. Ainsi, Eliakim doit probablement être compris comme fournissant un type ou un modèle d'un fils supérieur qui doit venir. Encore une fois, cela est encore plus corroboré si nous lisons le chapitre 22 d'Isaïe à la lumière du chapitre 9. Et puis, enfin, remarquons de manière intéressante les chapitres entre 22 et 23 d'Isaïe. Au chapitre 22, nous trouvons qu'au verset 23, Eliakim est comparé à une cheville. Je le pousserai comme une cheville dans un endroit ferme. Mais remarquez le plus loin, au verset 25. Ce jour-là, le Seigneur Tout-Puissant déclare que le pieu enfoncé dans un endroit ferme cédera. Il sera tondu. C'est presque comme si cela anticipait le moment où ce rattachement devra être rétabli. Et cette cheville doit être remise à sa place ferme. S'attendre à ce que quelqu'un vienne dans le futur pour accomplir cela. Donc, compte tenu de toutes ces choses, Le lien entre le Christ et David, surtout à la lumière d'Ésaïe 9. Le lien typologique entre Éliakim dans Ésaïe 22 et Jésus-Christ. Et puis aussi dans le contexte du 22. La rupture de cet ancrage. On s'attendait presque à ce que cette cheville soit rétablie. Tout cela conduit donc, je pense, à identifier Christ comme l'accomplissement ultime non seulement d'Ésaïe 9, mais maintenant aussi d'Ésaïe chapitre 22. Que Christ vient maintenant comme le dernier fils de David. Qui prend désormais les clés et a le pouvoir d'inclure ou d'exclure du royaume de Dieu. Qu'il est maintenant établi, ce qui deviendra important plus tard au chapitre 20 et au chapitre suivant. Quand Jésus-Christ vient établir son royaume. Cela aboutit finalement à une nouvelle création. Christ est celui qui a le pouvoir d'inclure ou d'exclure l'entrée de son royaume. C'est intéressant quand même. Au chapitre 1 et au verset 8, Jésus n'est pas décrit comme ayant les clés du royaume. Mais comme les clés de la mort et d'Hadès. Et maintenant au chapitre 3. Christ est celui qui possède les clés du royaume de Dieu. En d'autres termes, il me semble que le lien existe. Le Christ surmontant la mort et Hadès. C'est le moyen par lequel Christ accorde l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais encore une fois, pour ceux qui refusent de le reconnaître, il exclut. Et comme nous le voyons à la fin de l'Apocalypse, ils subissent une seconde mort. Et ils finissent dans l'étang de feu. Nous parlerons de ces images plus tard. Mais c'est le Christ qui triomphe de la mort et d'Hadès. Il le fait en accordant l'entrée dans le royaume de Dieu. Et il possède les clés et l'autorité pour le faire. Mais il le ferme à ceux qui refusent de le reconnaître. Et qui refusent de se repentir. Mais pour l'Église qui souffre à Philadelphie. Cette image serait une bonne nouvelle qu'ils n'ont rien à craindre car c'est le Christ lui-même. Qui détient les clés de la mort et d'Hadès. Et qui détient désormais les clés du royaume. Et leur accorde l'entrée. Donc, je pense que c'est ainsi que nous devons comprendre le verset 8. Dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, puis le verset 8. Dans le message à l'église de Philadelphie. Jésus dit ceci. Je connais vos actes. Voyez, j'ai placé une porte ouverte devant vous. Quelle est cette porte ouverte? Traditionnellement, cela a été compris. Surtout dans les cercles populaires comme référence à l'évangélisation. Il leur a donné une porte ouverte au témoignage. Il leur a ouvert la porte à l'évangélisation. Cependant, à la lumière du verset 7. À la lumière du lien avec Ésaïe 22. Le Christ possède les clés comme symbole d'autorité. Permettre l'entrée ou exclure l'entrée dans le royaume de Dieu. Le royaume messianique. La porte ouverte ici n'est pas une porte d'opportunité pour l'évangélisation. La porte ouverte est l'entrée dans le royaume de Dieu. Et maintenant, Jésus leur donne l'assurance. Ils ont une porte ouverte, et c'est lui qui détient les clés de la mort et d'Hadès. C'est lui qui détient exclusivement les clés permettant d'entrer. Il est le seul qui permette l'entrée dans le royaume messianique. En surmontant la mort et l'enfer et par sa résurrection. Et maintenant, il a donné une porte ouverte aux Philadelphiens. Alors, quoi qu'il arrive, ils souffrent. Peu importe à quel point ils semblent insignifiants. Peu importe à quel point ils sont impuissants face à leur situation. Ils ont déjà obtenu l'entrée dans le royaume messianique. Par le roi, fils de David. Qui détient les clés qui permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. Par celui qui a traversé sa mort et sa résurrection. A conquis le pouvoir de la mort et d'Hadès. Un autre aspect important de ce message adressé à l'église de Philadelphie se trouve au verset 9. Autrement dit, au verset 9, dit-il. Je ferai de vous ceux qui sont de la synagogue de Satan. Rappelez-vous quelques églises plus tôt. Cela a également eu du mal avec ceux qui. Il est intéressant de noter qu'il y a l'église de Smyrne, l'autre église. Cela reçoit une évaluation positive. Aujourd'hui, les Philadelphiens semblent également souffrir. Ou recevoir une certaine mesure de persécution. À cause de la population juive de la ville de Philadelphie. Nous devions probablement comprendre cela de la même manière que nous l'avons fait plus tôt. Autrement dit, il est fort possible que les Juifs aient bénéficié d'une protection. Sous la domination romaine, en tant que religion. Souhaitent se démarquer de cette nouvelle religion. C'est ce que nous appelons le christianisme. Certains, notamment les autorités locales, comme nous l'avons dit, la persécution jusqu'à présent n'était pas encore à l'échelle de l'Empire. est officiellement sanctionné. Mais nombreux sont ceux qui, au niveau local, auraient considéré les chrétiens comme subversifs et refusé de s'accommoder. Autant refuser de se conformer et agir d'une manière qui montrerait un manque de gratitude vers les dieux et vers Rome. Et les Juifs étaient peut-être désireux de préserver leurs privilèges sous la domination romaine pour se distancer des autres chrétiens. Et donc, la référence ici peut être prise de cette façon comme étant ceux qui prétendent être juifs. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Autrement dit, ils prétendent être le peuple de Dieu. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Parce qu'ils persécutent et calomnient les chrétiens qui se trouvent dans la ville de Philadelphie, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit d'eux. John dit en fait, je vais les faire. Ce sont les juifs qui prétendent être juifs. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je les ferai venir et reconnaître que je t'ai aimé. Ceci est en fait repris du livre d'Isaïe. Plusieurs textes notent parfois Isaïe chapitre 45 et verset 14. Isaïe 49 et verset 23. Isaïe chapitre 60 et verset 14. Cette idée est que les nations viendront en Israël. Et inclinez-vous et reconnaissez-les. Et reconnaissez que Dieu les a aimés. Il est intéressant de noter que John inverse cette tendance. Et il dit qu'en réalité, ce ne seront pas seulement les nations qui viendront. Et prosternez-vous devant la nation d'Israël. Et reconnaissez qu'ils sont le peuple de Dieu. Maintenant, ces juifs qui persécutent le peuple de Dieu viendront se prosterner devant le peuple de Dieu. L'église de Philadelphie. Et reconnaissez que Dieu les aime. Ainsi, John utilise ce texte de manière presque ironique. Encore une fois, pour rassurer les Philadelphiens. Non seulement cela, mais ils avaient également accès au royaume messianique. Parce que Christ détient les clés. Mais un jour, ceux qui les persécutent, même ceux qui appartiennent à la synagogue juive s'inclineront et reconnaîtront à l'avenir qu'ils sont vraiment le peuple de Dieu. La promesse que Jésus a faite à l'église de Philadelphie était double. À partir du verset 10. Tout d'abord, Jésus promet que s'ils vainquent. Et encore une fois, il s'agit pour l'église de Philadelphie de vaincre. Cela signifie maintenir le témoignage fidèle qu'ils ont déjà, refuser de faire des compromis s'ils surmontent le verset 10. Le Christ promet qu'il les gardera de l'heure de l'épreuve. L'heure de l'épreuve que nous verrons sera probablement expliquée plus en détail dans Apocalypse chapitre 4 et verset 21. Cela implique probablement alors. À mon avis, il y a beaucoup de débats. Qu'est-ce que cela implique? Qu'ils seront gardés dès l'heure de l'épreuve. John ne se concentre probablement pas autant sur leur retrait physique de cela. Mais cela pourrait également impliquer que Dieu les gardera simplement et les préservera. Et ce, même en plein procès. Et même au milieu de ce qui est à venir. Dans le reste de l'Apocalypse. Dieu les préservera. Pour qu'ils ne participent pas. Oui, on ne promet pas nécessairement à l'Église d'être protégée de la persécution. Et surtout aux mains de l'Empire romain. Mais quand Dieu déverse son jugement, ce texte promet que Dieu les gardera. Dieu les préservera au milieu de cela. Deuxièmement, l'auteur fait ensuite directement appel à Apocalypse entre 21 et 22. Avec à la fois des images du Temple et de la Nouvelle Jérusalem. Remarquez qu'il promet qu'ils seront un pilier dans le Temple de Dieu. Et il promet également qu'ils participeront à la Nouvelle Jérusalem. Cela vient du ciel. Ces deux images proviennent directement d'Apocalypse entre 21 et 22. Dans Apocalypse 21, Jean décrit la Nouvelle Jérusalem. Qui vient du ciel? Descend du ciel? Être habité et hérité par le peuple de Dieu. Mais il est intéressant de noter cette imagerie de pilier. L'image d'un pilier dans le temple de Dieu. Cela fait également écho au chapitre entre 21 et 22. Parce que la Nouvelle Jérusalem n'y est pas seulement représentée comme une ville. Il est également clairement représenté comme un temple. La Nouvelle Jérusalem n'est pas seulement une ville de la fin des temps. C'est un temple de la fin des temps. Ainsi, en utilisant l'image d'un pilier dans le temple de Dieu. Ensuite, je me suis retourné et j'ai utilisé la langue de la Nouvelle Jérusalem. John dit la même chose. Car ils hériteront du temple de Dieu de la Nouvelle Jérusalem. C'est intriguant aussi. Je me demande dans quelle mesure le pilier peut aussi refléter le piquet du palais. Dans le temple d'Éliakim d'Ésaïe chapitre 22. Et maintenant, on leur promet qu'ils y participeront. encore une fois, une autre façon de dire. Ils participeront au royaume final de Dieu dans le temple lorsque Christ viendra le restaurer. Et pour apporter le salut eschatologique à son peuple. Nous voyons aussi ici l'anticipation de quelque chose. Nous le verrons ailleurs dans l'Apocalypse. Et nous le trouvons ailleurs dans le Nouveau Testament. Comme Éphésiens 2 et 1 Corinthiens 3. Où l'imagerie du temple est appliquée aux gens eux-mêmes. Autrement dit, le temple restauré ne doit pas être compris en termes de structure physique, mais au niveau des gens eux-mêmes. Le peuple constitue désormais le véritable temple de Dieu. Et encore une fois cohérent avec d'autres textes du Nouveau Testament. Ainsi, l'Église de Philadelphie lira le reste du livre de l'Apocalypse. En tant que numéro 1. Ils sont protégés des fléaux et des jugements que Dieu déverse sur la terre. Ils en seront protégés. Et ils recevront le salut promis. À cause de leur témoignage fidèle. Et à cause de leur endurance. Cela nous amène donc à la dernière église. L'église de Laodicée. Au chapitre 3, versets 14 à 22. Cette dernière église se situe donc en quelque sorte à la fin de ce parcours circulaire. C'est à environ 45 miles de la ville de Philadelphie. Au sud-est de celui-ci. Pendant que je lis ceci. C'est probablement l'un des messages les plus troublants adressés aux sept églises. Dans les chapitres 2 et 3. Et nous verrons pourquoi. Laodicée est une église qui a également été détruite par un tremblement de terre. Elle a en fait été détruite par un tremblement de terre vers l'an 60 après J.C. Donc seulement 30 ans environ à partir du moment où Jean s'adresse maintenant à cette église. Mais la ville fut reconstruite. Mais curieusement, pas avec l'aide de Rome. Mais de la part de ses propres citoyens riches. À partir de la richesse de ses propres citoyens et habitants, ils ont reconstruit. Ils ont financé la reconstruction de la ville. Que sait-on de la ville de Laodicée? Au moins un facteur qui entrera en jeu dans une autre section de cette lettre. Où je suis désolé de ce message adressé à l'église de Laodicée. Il manquait à la ville de Laodicée une exigence bien connue de toute ville ancienne. Et c'était un bon approvisionnement en eau. L'une des caractéristiques et des critères les plus importants pour une ville. Ce n'était pas seulement un endroit qui pouvait être protégé. Mais il doit également disposer d'un approvisionnement en eau. Et c'est l'une des choses qui manquait à Laodicée. En fait, comme la plupart le savent, vous pouvez même voir des photos du système d'aqueduc. Laodicée obtenait son eau en l'acheminant via un aqueduc, d'ailleurs. En outre, Laodicée était le centre de culte d'un certain nombre de dieux étrangers et païens. Et encore une fois, le culte de l'empereur était également influent dans la ville de Laodicée. Et donc, voici ce que Jésus dit à la ville de Laodicée. Ou à l'église de la ville de Laodicée. Écrivez à l'ange de l'église de Laodicée. Ce sont les paroles de l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le souverain de la création de Dieu. Je connais tes actes, tu n'es ni chaud ni froid. J'aimerais que tu aies chaud ou froid. Donc, parce que vous êtes tiède, je pense que j'ai raté quelque chose. Vous n'avez ni chaud ni froid. J'aimerais que tu sois l'un ou l'autre parce que tu es tiède. Ni chaud ni froid. Je suis sur le point de te cracher de ma bouche. Vous dites que je suis riche. J'ai acquis de la richesse et je n'ai besoin de rien. Mais vous ne réalisez pas que vous êtes misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter pour moi de l'or raffiné au feu. Ainsi, vous pouvez devenir riche et porter des vêtements blancs, ainsi, vous pouvez couvrir votre nudité honteuse. Et un baume à mettre sur vos yeux pour que vous puissiez voir. Ceux que j'aime, je les réprimande et je les discipline. Donc soyez sérieux, et repentez-vous. Me voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai manger avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je te donnerai le droit de t'asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cependant, certaines églises des chapitres 2 et 3 reçoivent une évaluation à la fois positive et négative. L'évaluation de Laodicée est uniquement négative. Le Christ ne dit rien de bon, comme si je savais où tu es. Et je te loue pour ta fidélité. Et je vous félicite parce que vous avez fait du bon travail. Mais j'ai ça contre toi. Au lieu de cela, l'évaluation globale de l'Église est négative. Christ n'a rien de bon à dire sur l'église de Laodicée. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de souffrance. Le problème semble plutôt être un manque total de sagesse. Et l'horrible condition spirituelle de l'église. En raison de leur complaisance et des compromis provoqués par leur richesse. C'est intéressant. Jésus ne semble rien dire sur leur compromission avec le culte païen. Et l'implication dans le culte de l'empereur. Même si cela peut être implicite. Mais au lieu de cela, Christ s'en prend à leur complaisance totale. Autrement dit, ils dépendent tellement de leur propre richesse et de leur confort dans leur situation. Qu'ils n'ont tout simplement aucun témoin. En fait, remarquez le langage de la richesse lorsque Jésus leur dit d'acheter de l'or raffiné au feu afin que vous puissiez vraiment être riches. C'est en quelque sorte le langage de l'ironie. Autrement dit, Jésus réprimande leur richesse physique et leur statut physique. Et dit qu'en réalité vous êtes pauvres parce qu'il vous manque la vraie richesse. Il vous manque la vraie richesse spirituelle. Et probablement cette langue d'or. Et par exemple, le langage du collyre. La ville de Laodicée, comme nous l'avons déjà vu, était connue pour sa richesse. C'est ainsi qu'elle s'est reconstruite après le tremblement de terre de 60 après J.C. Mais aussi le fait que la référence au collyre. Cela peut refléter le fait que Laodicée possédait une école de médecine bien connue pour produire des collyres. Maintenant, Jean utilise cela ironiquement pour dire que vous êtes spirituellement pauvre. Contrairement à votre statut socio-économique, vous êtes en réalité pauvre. Et contrairement à la réputation de votre centre médical et du collyre. En réalité, vous êtes spirituellement aveugle. Il leur conseille donc plutôt d'acquérir des choses qui favorisent réellement la richesse spirituelle. Et la perspicacité spirituelle et la vue spirituelle. L'image du chapitre 1 qui est appliquée au Christ. Il est considéré comme l'amen et le témoin fidèle. C'est exactement ce que Laodicée n'était pas. Ils n'étaient pas des témoins fidèles. Au lieu de cela, Jésus-Christ est décrit comme le souverain de toute la création. Il est intéressant de noter que la langue est très similaire à celle que l'on trouve chez un voisin. Adressée à une église voisine. L'église de Colosse dans Colossiens chapitre 1, versets entre 15 et 20. Christ est le chef de l'église. Autrement dit, il a le pouvoir sur l'église. Il est en situation d'autorité sur leur vie. Et leur richesse et leur situation socio-économique. Ainsi, la condition de l'Église est bien celle de la richesse physique. Et dans un environnement riche et prospère. Spirituellement, cela a conduit à une extrême complaisance. Et une inefficacité spirituelle totale. On pourrait même parler d'une mort spirituelle totale. Je pense que cela nous aide à comprendre les paroles de Jésus dans les versets 13 et 6 à 16. Ainsi que d'utiliser ce que nous savons de l'histoire de la communauté de Laodicée. Je pense que tout cela nous aide à comprendre les paroles de Jésus dans les versets 13 à 16. C'est-à-dire qu'il condamne l'Église parce qu'elle n'est ni chaude ni froide. Mais au lieu de cela, être tiède. Or, traditionnellement, nous avons compris cela comme signifiant. Eh bien, l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée est tiède. Qui est tiède doit être compris au milieu ou à mi-chemin entre le chaud et le froid. Nous traitons le chaud et le froid comme des opposés binaires. Avec tiède au milieu. Et généralement, nous les assimilons alors. Nous assimilons le chaud, le tiède et le froid à la température spirituelle. Il serait si chaud d'être en feu pour Christ. Et être efficace et témoin. Le froid serait le contraire. Être éteint et être mort. Et tout simplement insensible à l'évangile. Le tiède est entre les deux. C'est en quelque sorte sans engagement. C'est insensé. C'est sans enthousiasme. C'est en quelque sorte contourner la clôture. Ne pas vouloir prendre position pour Christ. Mais je ne veux pas non plus le rejeter. Mais c'est juste une sorte de christianisme à mi-chemin, insipide. C'est généralement ainsi qu'on comprend cette métaphore. Mais je suis convaincu. Et suivez un certain nombre d'autres qui suggèrent que ce n'est pas ce que Jean avait en tête. Et la façon de comprendre cela. Il est important de le lire à la lumière du contexte culturel des Laodicéens. Nous l'avons déjà dit. L'une des caractéristiques intéressantes et intrigantes de Laodicée. Il lui manquait l'un des critères les plus importants pour une ville. Il s'agit d'avoir un bon approvisionnement en eau, grâce à un système d'aqueduc élaboré. Son eau venait d'ailleurs. Maintenant, avec ça. L'autre chose à reconnaître est deux autres villes de la région de Laodicée. Très proches de Laodicée. Ils étaient en fait connus pour leurs réserves d'eau. L'une d'elles était une ville nommée Hiérapolis. Elle était connue pour ses sources chaudes. C'était bénéfique à des fins médicinales. Les gens venaient de partout pour se baigner dans ces sources. Si vous en avez déjà vu des photos, cela ressemble un peu. Ceux d'entre vous qui ont déjà visité le parc de Yellowstone. Aux États-Unis d'Amérique, les gigantesques sources chaudes. Et toutes les sources chaudes bouillonnantes. Hiérapolis n'est pas loin de Laodicée. Elle était bien connue pour son approvisionnement en eau chaude. Et encore une fois, les gens venaient partout. Pour leur valeur médicinale et curative. L'autre ville, Colosse, était également proche de Laodicée. Était également connue pour son approvisionnement en eau. Elle était connue pour son eau froide et rafraîchissante. C'était bon à boire. Et donc, vous avez Laodicée. Entourée de deux villes. Hiérapolis et Colosse. Connue pour son approvisionnement en eau. Un pour l'approvisionnement en eau chaude. Un pour l'approvisionnement en eau froide rafraîchissante. Mais à la place, Laodicée. Il doit y amener son eau. Et le temps qu'elle y arrive. C'est tiède. C'est périmé. C'est tiède. Ce n'est pas comme l'eau chaude de Hiérapolis. C'est bon pour la guérison. Ce n'est pas comme l'eau froide et rafraîchissante de Colosse. C'est bon à boire. Et un rafraîchissement. Au lieu de cela, c'est tiède. C'est bon à rien. En fait, c'est tellement grotesque. Ce que dit le Christ, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Et tu y penses. Personne n'aime l'eau tiède. Une meilleure analogie que. Une meilleure analogie que la température spirituelle. Je pense que ce serait ça quand tu entrerais dans un restaurant. Pourquoi le serveur ou la serveuse continue-t-il de remplir votre tasse de café? Votre tasse de café chaud. Parce que personne n'aime le café tiède. Ou pourquoi continue-t-il à venir remplir votre verre d'eau? Parce que personne n'aime l'eau tiède ou tiède. On l'aime frais. De la même manière, Jésus fait appel à l'église de Laodicée. J'aimerais que tu aies chaud. Comme l'eau chaude de Hiérapolis, elle est bonne pour la guérison. Ou j'aimerais que tu aies froid. Comme l'eau froide et rafraîchissante de Colosse. Le froid et le chaud sont des choses positives pour John. Et pour ses lecteurs. J'aimerais que vous soyez comme vos villes voisines. Qui avaient de la bonne eau. Chaud et froid. Ils sont bons à quelque chose. Au lieu de cela, vous êtes comme votre propre réserve d'eau. C'est tiède. C'est tellement dégoûtant et dégoûtant. C'est bon à rien. Et c'est tellement dégoûtant. Je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Ainsi, tiède ne signifie pas un christianisme insensé et intermédiaire. Il représente les chrétiens morts, inefficaces et inutiles. Ils sont devenus tellement complaisants quant à leur richesse et à leur situation qu'ils sont complètement inutiles. Et des témoins totalement inefficaces pour la personne de Jésus-Christ. Là encore, la solution est sans équivoque. C'est se repentir. Et pour trouver la vraie richesse, pour trouver la vraie vue et pour trouver les vrais vêtements. Encore une fois, même le langage des vêtements. Porter des vêtements blancs comme nous l'avons dit dans l'Apocalypse. Symbolise le dépassement, la victoire et la pureté. Cela peut aussi refléter le commerce de la ville de Laodicée. Mais la solution de Jean est de se repentir. Ils n'ont pas d'autre choix pour sortir de leur mort spirituelle. Leur inutilité spirituelle. Leur pauvreté spirituelle, leur cécité et leur impureté. Et plutôt se repentir et agir en tant que témoin fidèle de Dieu. Notez 3.20 comme dernière instruction. Une instruction finale à l'Église. Regardez le chapitre 3:20. C'est l'un des textes les plus connus. Encore une fois, je pense que cela est souvent mal interprété parce que nous ne parvenons pas à comprendre comment cela s'intègre dans l'ensemble du message adressé à Laodicée. Au chapitre 3:20. Le Christ se décrit ainsi. Il dit, « Me voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai manger avec lui. Et cette personne mangera avec moi. » Souvent, nous avons lu ce verset de manière plus individualiste. Comme un appel individualiste au salut. Et je tiens certainement à dire que ces images pourraient en fournir une description appropriée. Mais ce n'est pas de cela dont parle John. Jean ne parle pas d'un appel au salut individuel. Le Christ est debout, frappant à la porte de nos cœurs, voulant entrer. Même si cela pourrait être vrai, le tableau ici est plus insidieux. Jésus-Christ est vu comme se tenant à l'extérieur de son Église. Pas le bienvenu là-dedans. L'Église de Laodicée est devenue si complaisante et inefficace. Elle dépend tellement de sa richesse et de son statut dans la société. Et ses environs. Que Jésus-Christ n'est plus le bienvenu dans son Église. Et se tient à l'extérieur de son Église. La seule solution est d'ouvrir la porte. Et permettez-lui de revenir partager un repas. Peut-être une référence au fait que l'Église célébrait des fêtes. Y compris la communion. Peut-être une référence à la fête de l'amour ou quelque chose comme ça. Et une communion qui est presque encore plus ironique. S'il s'agit d'une référence à l'Église célébrant une fête. Et célébrer la communion ensemble. Alors, Jésus-Christ, tout d'un coup, est exclu de cela. Et exclu de cela. Et maintenant, il demande à être de nouveau accueilli dans son Église. Et être à nouveau présent et au centre de son Église. Celui qui se promène autour des chandeliers. Il demande maintenant à être également au centre de son Église. Donc, pour l'Église de Laodicée, ils doivent cesser de faire des compromis. Ils doivent mettre fin à leur sentiment de complaisance. Et du confort en s'appuyant sur leur richesse. Et leur statut socio-économique. Et au lieu de cela, ils doivent laisser Christ. Le maître de la création. Le témoin fidèle. Venez au milieu d'eux. Et retour au centre de leur Église. Et eux aussi doivent devenir des témoins fidèles du Christ. Peu importe les conséquences. Remarquez également la promesse qui leur est faite s'ils triomphent. À celui qui vainque, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme j'ai vaincu. Autrement dit, si les Laodicéens se repentant, c'est s'ils vainquent en se repentant. Refusant de faire des compromis. En cessant de vivre une vie de complaisance. En permettant au Christ de revenir parmi eux. En devenant les témoins fidèles du Christ. Supposons qu'ils triomphent de cette façon. Christ promet qu'ils régneront avec lui. Il est assez intéressant de constater que cette promesse ne correspond pas tout à fait à certains égards. Vous vous demandez comment cela correspond réellement à leur situation. Eh bien, dans un sens, vous pouvez le voir. En leur promettant de gouverner. Ce serait une motivation pour sortir de leur stupeur spirituelle. Mais d'autre part, je me demande si peut-être cette promesse est intentionnelle. Il s'agit plutôt d'une promesse générale. Pour nous préparer au chapitre 4 et 5. Dans les chapitres 4 et 5, nous trouvons Dieu et l'agneau assis sur le trône et régner au ciel. Et leur souveraineté est reconnue par tout le ciel. Et régner sur la terre entière. Et maintenant, en préparation pour cela, l'Église de Laodicée. D'autres églises se voient probablement promettre d'y participer. S'ils l'emportent, il s'agit peut-être plutôt d'un général. Une promesse générale. À l'Église de Laodicée. En préparation pour la vision qui vient ensuite. En 4 et 5. Où Dieu et l'agneau sur leur trône. Est au centre. Donc, pour les Laodicéens. Ils liront le reste du livre de l'Apocalypse. Comme un avertissement plutôt sévère de jugement. Ils liront le reste des plaies. Et les jugements de Dieu dans l'Apocalypse tombant sur eux s'ils refusent de se repentir. Ils liront le reste du livre de l'Apocalypse. Pour tenter de les sortir de leur complaisance. Et pour les amener à rechercher la vraie richesse. Et une vraie vue. Et la vraie pureté. Cela ne vient que par la fidélité à Jésus-Christ. Et témoin fidèle du Christ. Peu importe le prix. Donc, à ce stade, tout d'abord, nous avons vu le Christ diagnostiquer la situation dans ces églises. Seuls deux d'entre eux ont été fidèles jusqu'à la souffrance. Pour leur fidélité. Les autres l'ont fait. La plupart d'entre eux en ont. Quelque chose qu'ils ont bien fait. Mais la plupart d'entre eux reçoivent. Une évaluation plutôt négative. La plupart d'entre eux manquent de quelque chose. C'est sur cela que le Christ attire l'attention. Et l'un d'eux. L'Église de Laodicée reçoit une évaluation totalement négative. Le problème avec tout cela, dans une certaine mesure, c'est le compromis. et accommodement avec l'environnement païen romain. C'est ça l'idolâtrie. Culte des dieux païens. Implication dans le culte de l'empereur. Souvent en lien avec leur vie commerciale. La difficulté, c'est le refus de s'en séparer. Certains d'entre eux étaient peut-être prêts à faire des compromis précisément pour éviter d'être persécutés et ostracisés. Peut-être même perdre des emplois. D'autres ont peut-être simplement été si complaisants qu'il fallait les réveiller et choquer de comprendre et voir la gravité de la situation et ce qu'ils faisaient. Mais la plupart d'entre eux faisaient des compromis dans une certaine mesure avec l'Empire romain païen et la société païenne dans laquelle ils se trouvaient. Donc, chapitres 2 et 3. Ensuite, parler de diverses situations. C'était l'Église du 1er siècle. Et j'ajouterai l'Église aujourd'hui. Et tous les deux siècles se retrouvent dans pas seulement la persécution. Et je dirais au moins pour de nombreuses églises aujourd'hui. Surtout en Occident. La persécution est rare, ce qui constitue le principal problème auquel ils sont confrontés. Deuxième, nous voyons ensuite les chapitres 2 et 3. Déterminera comment chacune des églises. Lisez le reste du livre de l'Apocalypse. Ou comment le reste de l'Apocalypse. Appliqué spécifiquement à chaque église. Et puis finalement nous l'avons dit. À commencer par le chapitre 4. Dans les chapitres 4 à 22. Chapitre 4 à 22. Je vais réinterpréter. D'un point de vue symbolique. D'un point de vue apocalyptique. Chapitre 4 à 22. Will d'un point de vue visionnaire. Interpréter ce que John a réellement dit. Dans les chapitres 2 et 3. La dernière chose que je vais mentionner. C'est la phrase que nous avons négligée. Et c'est à la fin. Avec les promesses. Parfois avant. Parfois juste après. Avec la promesse. Nous avons le message. Celui qui a une oreille. Qu'il entende ce que l'Esprit dit des églises. C'est avec les chapitres 2 et 3. Nous trouvons le besoin de discernement spirituel. Pour voir ce qui ne va pas avec les églises. La seule voie pour les églises. Se réveiller de leur situation est le seul moyen pour les églises de maintenir leur témoignage fidèle. Même face à la persécution. La seule façon pour l'Église de comprendre sa complaisance. Son compromis et son aveuglement spirituel. Il lui faut maintenir son témoignage fidèle. C'est en ayant une perspicacité spirituelle. Dans la situation de l'Église. Et les chapitres 2 et 3. Fournissez les informations nécessaires. Pour l'Église. Surtout les églises qui font des compromis. Se réveiller. Et discerner leur situation. Et à discerner. Quel est le reste du livre de l'Apocalypse? Dit au peuple de Dieu. Cela renforce simplement. Cela concerne les chapitres 4 à 22. Il ne s'agit pas simplement de prédire l'avenir. Et pour nous fournir des informations. Pour nous aider à comprendre. Que va-t-il se passer dans le futur et où en sommes-nous? Pour tracer notre existence dans une certaine chronologie. Cela montre à quel point nous sommes proches de la fin. Au lieu de cela, Apocalypse chapitre 4 à 24 nécessite une perspicacité spirituelle. Cela demande de la compréhension et le regard des esprits. L'esprit septuple. Pour nous aider à saisir et à comprendre la véritable situation de l'Église. Et quels sont les enjeux. Et ce que Dieu exige de son Église. S'ils doivent lui répondre par obéissance. Et s'ils veulent maintenir leur fidèle témoignage dans un environnement païen hostile. Et de maintenir ce témoignage. Peu importe le prix. Après avoir regardé les messages adressés aux sept églises. Dans les chapitres 2 et 3. Nous sommes désormais prêts à aller de l'avant. Et commencer à lire. Et commencer à réfléchir. Le visionnaire, une sorte de partie apocalyptique. Des chapitres 4 à 22. Donc, ce que je propose, c'est que nous continuions à avancer. Nous passerons par les chapitres 4 à 22. Et en commençant par les chapitres 4 et 5. Tri du point d'entrée dans le point de départ. De la vision de John. Nous examinerons la fonction principale de la vision dans son ensemble. Et nous nous demanderons également quel est le rapport avec la situation des églises dans les chapitres 2 et 3. mais regardez la fonction globale et son contexte. Mais regardez aussi certains détails. Et surtout certains des plus importants ou intéressants ou des détails problématiques. Sous forme de langage, de symboles et d'images. Et donc, ce faisant, essayez de parvenir à une meilleure compréhension de la fonction principale et du but des différentes sections et parties de la vision que nous trouvons dans le reste du livre. Il s'agit du cours du Dr Dave Mathewson sur le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de la session 7, les sept églises de l'Apocalypse, Sardes, Philadelphie et Laodicée.